d'une grande clameur, rauque comme le râle de l'énorme bête fiévreuse.
Je vous remercie, mademoiselle Sorouche. Vous devriez rentrer vous reposer. Je ne pourrai pas dormir. Peut-être que si. Il faut que vous essayiez de vous reposer. Je ne lui avais pratiquement pas adressé la parole depuis la veille, vous savez. J'étais fâché contre lui. Vous n'êtes coupable de rien. Vous vous sentez peut-être coupable, mais écoutez-moi. Même si vous ne pouvez pas encore me croire, écoutez-moi. Vous n'êtes coupable de rien. Rentrez. Reposez-vous. Quand elle sort de la gendarmerie, malgré l'heure matinale, la lumière brûlante du soleil l'éblouit. Elle cherche un coin d'ombre, qu'elle trouve à l'angle du parking où elle s'assied sur un muret bordé, non de troène, mais de laurier. Elle prend son téléphone pour appeler ses parents. Elle a envie d'appeler ses parents. Elle n'y arrive pas. Voilà ce qui s'est passé hier soir, devra-t-elle leur dire. Et maintenant j'attends. J'attends sans rien désirer. Chaque possible porte en lui sa souillure. Le chagrin souillé d'un lâche soulagement, le soulagement souillé d'un irrémédiable chagrin. Elle voudrait fuir dans le passé qui seul lui semble encore désirable. Sous les frondaisons du merveilleux jardin, raconte son grand-père sur le chemin de l'école. Quand le monde était encore tout jeune, notre père et notre mère à tous vivaient dans l'innocence des bêtes que le Seigneur des mondes n'avait pas conçues pour eux. Alors un très puissant djinn effleura leurs paupières et leur ouvrit les yeux comme il ouvre depuis ce jour les yeux de tous les enfants du monde. Et parfois, dit encore son grand-père, sans qu'on sache pourquoi, car le cœur ardent des djinns recèle en ses profondeurs d'insondables mystères, il s'attache tout particulièrement à une petite fille comme toi, et la surveille, et la protège durant toute sa vie afin qu'elle ne soit jamais seule. Et Shirin avance, non dans un parking écrasé de canicule, mais le long d'un mur en meulière, les yeux levés vers son grand-père, dont la grande main chaude enveloppe la sienne. Et elle marche en prenant bien soin de ne pas glisser sur les larges feuilles de platane noires et rousses que baigne une pluie d'automne. Il peut mourir deux fois. Philippe a toujours témoigné d'un étrange respect pour le diplôme du baccalauréat alors qu'il a lui-même mis un terme à sa désastreuse scolarité en troisième. Non sans avoir eu le temps de provoquer au sein du corps enseignant, de l'école primaire jusqu'au collège, une vague d'arrêts maladie qui ne furent pas tous de complaisance. Le jour des résultats, il tint absolument à m'accompagner au lycée. Au moment de l'affichage, il bondit comme un fauve pour atteindre le panneau réservé aux séries littéraires avant que l'attroupement fébrile des lycéens en eût rendu l'accès impossible. Et c'est donc lui qui m'annonça que j'étais bachelier. « Putain » cria-t-il. « Tu l'as ?» Tu es là, avec mention très bien. T'es un cador, un vrai cador. Et j'apercevais son pouce brandi triomphalement au-dessus de la foule d'où s'élevèrent bientôt le rire des élus et le sanglot des réprouvés. Je dois confesser sans fausse modestie que mon succès ne me surprit guère. Je n'étais pas loin de partager sans réserve le jugement flatteur que Philippe venait d'exprimer sur mon compte. Mais je me sentais quand même particulièrement fier de ma mention. J'attendis un bon quart d'heure de pouvoir approcher à mon tour des panneaux pour y lire mon nom et vérifier que mon ami, dans sa précipitation, ne m'avait pas causé une fausse joie en se trompant de ligne dans la liste des lauréats. Je voulus rentrer chez moi pour annoncer la nouvelle à mes parents, mais il insista, au prétexte que le magasin de souvenirs se trouvait sur le chemin, pour que nous passions d'abord chez, je le cite, « la vieille pute », affectueux surnom dont il avait affublé sa grand-tante et qui scandalisait ma mère aux yeux de laquelle le fait qu'Eugénie Romani fût bel et bien, sans le moindre doute et dans tout le sens possible du terme, une vieille pute, ne justifiait pas que son propre neveu, sans égard pour son grand âge, l'appela publiquement ainsi, et se réjouit de ce qui aurait dû le faire mourir de honte s'il n'avait pas atteint depuis longtemps les fonds abyssaux de la déchéance morale. « Ah, mon coco !» s'exclamait Eugénie en me serrant contre ses gros seins, « je suis heureux !»